bonsoir tout le monde. Voilà, donc nous voilà réunis ce soir pour présenter le dernier livre de Christian Lachalle, Comment se transmettent les traumas. Trauma, contre-transfert, empathie et scénario émergent, donc à la pensée sauvage à Grenoble. Voilà, donc moi je suis très contente d'être là ce soir pour vous présenter donc Christian Lachalle. Un petit mot de présentation. Christian est pédopsychiatre et psychanalyste donc à Clermont-Ferrand. Et je dirais que c'était un pédopsychiatre classique avec une carrière hospitalière jusque dans les années 90. Et là, il s'est arrêté, en tous les cas, en ce qui concerne l'hôpital. Et il a été appelé, en fait, sur un terrain humanitaire. Et je dirais que toute la réflexion qu'il va développer naît d'une situation concrète, donc il vous racontera, concernant une mère, un bébé, en Sierra Leone. C'est important, la Sierra Leone, parce qu'effectivement, je me rappelle très bien, c'est dans ce cadre-là que j'ai connu Christian Lachalle. La Sierra Leone était un conflit très peu médiatisé et on ne savait pas très bien ce qui s'y passait. Et donc, il y aura un avant et un après, je dirais, enfin, à mon avis, Christian nous dira ce qu'il en pense de la carrière de Christian Lachalle, car à partir de ce moment-là, il va y avoir deux choses importantes. C'est qu'il va enchaîner les terrains humanitaires avec Médecins sans frontières, avec des terrains dangereux, hein, pour venir porter secours donc sur un plan psychologique et psychique aux populations. Et la deuxième chose, ça va être toute une réflexion sur la question traumatique. Alors, concrètement, ça va se faire cette réflexion autour d'un groupe de recherche, autour du professeur Marie-Rose Moreau, donc, que certains d'entre vous connaissent bien, puisqu'elle est une pionnière en matière de transculturel et de psychiatrie humanitaire. Donc, il va y avoir un groupe de recherche autour du traumatisme, donc qui dure depuis plusieurs années, et la production donc de deux ouvrages. Le premier, qui était le partage du traumatisme, et celui-là, qui est la continuité, comment se transmettent les traumas. Alors, avant de donner la parole à Christian pour reprendre sa présentation, je vais juste vous donner quelques indices pour aborder cet ouvrage. D'abord, c'est un gros ouvrage, il faut être bien assis pour le lire avec attention. Et c'est un ouvrage, alors moi, qui m'a beaucoup plu parce qu'il est très aussi ce qu'on appelle très clinique, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le concret avec toutes les expériences qui peuvent être vécues par un psy en terrain humanitaire et particulièrement par Christian Lachalle. La deuxième chose, c'est que la méthodologie est quand même quelque chose à souligner. Il y a une méthodologie, on va dire composite, psychanalyste. Hein, Christian est psychanalyste. Et pour autant, il n'est pas dans une psychanalyse totalisante, on va dire, mais dans une psychanalyse que j'appelle tout terrain, moi. C'est-à-dire un outil qui va lui servir, quelle que soit la situation. C'est-à-dire la psychanalyse, ce n'est pas seulement un patient allongé avec un psy qui est derrière lui. Pour Christian, c'est un outil qui va lui servir dans toutes les situations et même les plus, on va dire, dangereuses même. Donc ça, c'est très important. Et donc, c'est pour illustrer et approfondir cette psychanalyse. Il y a sa propre expérience, donc ça, vous l'aurez compris, son expérience, sa propre analyse, exactement comme Freud le faisait de ses rêves, c'est-à-dire autour d'un concept qu'il a inventé, qui est le scénario émergent et qu'il vous définira lui-même. Et la troisième chose, c'est, on va dire, une recherche plus, entre guillemets, scientifique, c'est-à-dire, avec ce groupe de recherche, d'avoir pu interroger, analyser des psychiatres, des psychothérapeutes, des psychologues qui ont eux-mêmes vécu des situations humanitaires ou des situations traumatiques éprouvantes. Alors, je ne me suis pas présentée jusqu'à présent, mais juste pour dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui me concerne aussi, puisque moi, je suis psychiatre au CHU de Bordeaux, dans une consultation qui s'intitule « Consultation transculturelle » avec donc l'association MANA. Et effectivement, j'accueille dans notre équipe des personnes qui sont gravement traumatisées et qui ont vécu des situations extrêmes. Voilà, donc... Et donc, on a pu effectivement recevoir des membres de l'équipe de Marie-Rose Moreau et Christian Lachalle pour nous interroger justement sur un certain nombre de choses que Christian vous expliquera. Voilà, donc ça, c'est pour le côté méthodologie. Donc, méthodologie composite avec une analyse des concepts sur lesquels on va revenir, mais une analyse extrêmement minutieuse qui va s'ouvrir sur des concepts neuropsychologiques, psychanalytique, psychiatrique, voilà, et qui va nous permettre de comprendre effectivement qu'est-ce que c'est qu'un trauma d'abord et comment ça se transmet. Bon, c'est une présentation un petit peu généraliste parce que certains d'entre vous ne savent peut-être pas ce que c'est qu'un traumatisme. Je te passe la parole, Christian, tu vas finir de te présenter et de nous raconter d'abord, j'aimerais que tu nous racontes comment ton expérience humanitaire a été à l'origine de cette recherche-là, c'est-à-dire un impact aussi émotif et affectif sur ta personne.
Bon, je commencerai par remercier évidemment la librairie Mola qui nous permet de se retrouver pour discuter ce soir. Et je remercie beaucoup Claire qui est donc directrice de MANA, qui est une association qui travaille sur Bordeaux depuis de nombreuses années et qui reçoit beaucoup de personnes étrangères, on va dire, et qui fait un travail auprès d'elles remarquable. Et dans ces personnes, un certain nombre viennent de terrains, de pays en guerre ou en conflit, ou de pays écrasés quelquefois par des gouvernements totalitaires, enfin bon, tous les cas de figure, hein, bien sûr. Et je remercierai en dernier lieu le professeur Marie-Rose Moreau qui nous permet depuis de nombreuses années de mettre en pensée ce qu'elle nous a permis de mettre en acte d'abord, c'est-à-dire effectivement d'aller sur des terrains humanitaires et de travailler auprès des populations qui vivent dans la guerre, voilà. Autour d'elle s'est constitué un groupe un peu plus serré de gens qui essayent de réfléchir sur ces notions de traumatisme psychique. Et on a été les uns les autres assez préoccupés de quelque chose qui est développé depuis nombreuses années en fait, dans les pays anglo-saxons et qui a fait son apparition plus tardivement en France. À savoir comment est-ce que le trauma se transmet. Alors, il y a beaucoup d'écrits dans la psychanalyse européenne là-dessus, hein, et qui concernent essentiellement la transmission historique, on va dire, des traumas. C'est-à-dire, est-ce que la Shoah se transmet comment ? Qu'est-ce qui se passe à la... à la deuxième, à la troisième génération. Beaucoup de travaux ont été faits par notamment une psychanalyste arménienne qui s'appelle Janine Altounian, qui a beaucoup travaillé sur ces aspects. Mais nous avons essayé de reprendre ces questions au niveau de ce qui se passe entre les personnes directement quand elles sont en proximité. Et quelle plus grande proximité que les mères et les bébés ? Alors, la question est très importante, évidemment, c'est-à-dire que si vous, de façon un petit peu empirique comme ça, si vous discutez avec des mamans qui ont vécu des traumas et qui sont enceintes et qui élèvent leur bébé, beaucoup vous diront qu'elles sont sûres que le bébé a perçu quelque chose. Et elles ne savent pas quoi exactement et elles ont du mal à le décrire, effectivement, dans les comportements du bébé. Donc ça, c'est une question qui, pour nous, est évidemment très importante à approfondir pour savoir si, après, il est possible de faire des soins, de la prévention, etc. Alors pour ma part, c'est vrai que j'ai été un peu entraîné sur cette question à partir d'un cas clinique, d'une rencontre, on va dire, qui s'est passée en Sierra Leone. Je suis parti au début beaucoup dans les territoires palestiniens, ensuite en Sierra Leone, sur d'autres terrains. Bon, mais en Sierra Leone, il y a eu une guerre civile très dure, avec des enrôlements de force de jeunes qui eux-mêmes ont été violentés de telle façon qu'ils sont devenus extrêmement violents. Et une des spécialités, on va dire, des crimes de guerre dans cette région du monde, parce que ça concernait également le Libéria, un petit peu la Côte d'Ivoire, enfin... c'était des amputations à la machette des gens, et c'est resté comme ça dans le souvenir, peut-être, hein, je ne sais pas, mais en tout cas dans les récits qui étaient faits de cette guerre par les journalistes dans les quotidiens. Voilà. Et alors je me trouvais là-bas parce que, en fait, les gens qui ont été amputés, un certain nombre ont survécu et avaient été opérés. Tous ceux qui ont survécu ont été opérés par l'équipe Médecins sans frontières de chirurgiens qui était à Freetown, dans la capitale. Et ensuite, ils avaient regroupé les gens avec des aidants pour les aider à vivre, parce que quand on n'a plus de bras, c'est un peu compliqué pour se débrouiller. Il y avait aussi la perspective de les appareiller. Et ce camp, qu'on appelait le camp des amputés, donc on m'avait demandé de faire une évaluation sur les besoins des gens en soins de santé psychique, de santé mentale. Et dans les gens que j'ai reçu une fois une maman avec son bébé qui était âgé à ce moment-là de 22 mois ou 23 mois, je ne sais plus, 22 mois, et qui avait vécu avec sa mère l'entrée des rebelles dans la capitale, qui avait été d'une violence inouïe. Et donc, il se trouvait, elle l'avait sur le dos, et il se trouvait avec une centaine de personnes dans un bâtiment qui a été incendié. Ils sont sortis, tout le monde a essayé de s'enfuir, et cette maman a reçu une rafale de mitraillette qui lui a coupé les jambes, en quelque sorte. Elle est restée comme ça sur le sol toute la nuit, avec le bébé sur le dos. Et là, elle venait un an après, pratiquement, pour se faire appareiller par l'ONG, l'Organisation Handicap International. Et je la reçois donc avec son bébé, qu'elle tenait devant elle. Et à ce moment-là, j'ai été frappé parce que cette dame n'avait pas de troubles psychologique très important. Bien sûr, elle se plaignait de son handicap, mais elle était assez optimiste, hein, sur la suite. Elle voulait. Et par contre, le bébé semblait pas aller du tout. Et c'est difficile de dire d'un bébé de 22 mois s'il est traumatisé ou pas. Vous voyez, on a quelques éléments comme ça, descriptifs, des comportements. Donc c'est vrai que c'est un bébé qui était décrit comme très attaché tout le temps à la mère, ne jouant pas trop avec les autres enfants, mais se développant de façon assez banale, on va dire. Et pendant la consultation, il y avait deux éléments. Ce bébé me fixait d'un air terrible, avec une sorte de méfiance extrêmement perceptible, comme ça. et ne se laissait absolument pas aller comme le fait un bébé qui est sur sa mère. C'est-à-dire, il était droit comme un i et il surveillait toute la pièce et puis il me surveillait. Et de ce fait, je l'avais surnommé bodyguard parce que manifestement, il gardait la mère, quoi. Il était... voilà. Et voilà, je rentre de Sierra Leone. Alors, il y avait un élément, oui. Du coup, je l'oublie, c'est quand même pas... Alors, l'élément qui s'était passé, c'est que la mère était avec son bébé sur le dos, couché par terre. Et un des adolescents qui attaquait à ce moment-là s'est précipité pour décapiter le bébé. Et elle a mis sa main, ce qui fait qu'elle avait une main qui était très abîmée, qui a arrêté en quelque sorte la machette. Le jeune est parti après et le bébé n'a rien eu. Et je rentre de ce périple en Sierra Leone. Et une nuit, je suis réveillé par un cauchemar où des gens me tapent sur le cou avec des planches. On est toujours un peu prudent dans les rêves. Hein, pour... Et donc, ça me réveille. Là aussi, je me retrouve droit comme un i, quoi. Et puis, j'ai fait immédiatement le lien, évidemment, avec ce qui était décrit dans cette scène. Et à partir de ce moment-là, est venue une notion qui a lancé en quelque sorte cette préoccupation pour la transmission, mais qui était que justement, les bébés ne souffraient pas forcément de traumatismes transmis par la mère, mais qu'ils étaient, eux, capables, en quelque sorte, d'être traumatisés en eux-mêmes, c'est-à-dire que le traumatisme était, vous savez, on dit souvent un bébé, ça n'existe pas, un bébé, ça n'existe qu'avec sa mère. Et le travail qu'on peut faire en clinique avec les bébés, c'est avec les mères. Et en fait, de plus en plus, on approche par différentes méthodes, on va dire, et notamment les psychologues américains ont beaucoup travaillé sur justement rechercher chez les bébés de plus en plus tôt quelque chose qui est de l'ordre d'une subjectivité. Qui est couplée évidemment à celle de la mère, hein, qui se développe avec celle de la mère et à travers les interactions, mais qui fait que le bébé très tôt est un sujet, je veux dire, à part entière, à condition qu'il ne soit pas séparé, décomplété de sa mère. Bon, voilà. C'est les deux à la fois, en quelque sorte. Le bébé peut être considéré comme à part entière, à condition qu'il soit complété par la mère.
Donc, ce que tu nous dis, Christian, c'est que les bébés peuvent être traumatisés en dehors de la transmission de la mère au bébé. Et par contre, effectivement, tu reprends ce qui est connu, c'est que le traumatisme se transmet. Et donc, tu nous disais, il faut donc pouvoir aider les aidants. Alors, je voudrais juste que tu avances sur ce que tu as inventé, la notion de concept, le concept, je veux dire, de scénario émergent, et que tu nous expliques de façon simple qu'est-ce qui fait que un thérapeute, alors comme nous, un psychothérapeute, va pouvoir écouter un patient raconter ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qu'il va utiliser de ses compétences à lui, de sa psyché à lui, de son intériorité, de sa réalité, pour faire face à ce récit-là. Peut-être que tu peux nous expliquer, parce que j'aimerais que tu mettes l'accent sur ce que tu développes largement dans ce livre-là.
Alors... Voilà, ce qu'on a fait dans un but de recherche, c'était d'interviewer des thérapeutes qui avaient suivi des personnes traumatisées et qui avaient ressenti cet effet de transmission sur eux-mêmes. Et on est tombé sur quelque chose qui est assez particulier, qui est que, eh ben, vous l'avez déjà ressenti à travers quelques exemples que je vous ai donnés là, c'est quand quelqu'un vous raconte une scène traumatique, quelque chose qui est pas bien du tout dans nos conceptions morales et quotidiennes, ça produit immédiatement chez vous, à 90% des cas, on va dire, la venue d'images, voire de sensations, de représentations, qui répondent en quelque sorte à ce qu'on vous raconte. C'est-à-dire, je vous raconte l'histoire de cette maman par terre avec son bébé et le garçon qui lui donne un coup de machette sur la tête pour le décapiter. Et ben, tout de suite, vous avez des images. Enfin, je suppose que vous avez des images. Et si on prenait du temps, on ferait le tour de la salle et chacun aurait des images un petit peu différentes des autres. Et ces images ne correspondent pas point par point, loin de là, elles en sont même relativement éloignées, à la réalité de la scène qui s'est vécue. C'est-à-dire, il y a ce qui s'est passé dans la réalité, l'événement traumatique, on va dire. Ensuite, il y a la façon dont la personne qui l'a vécu se le représente après, hein, et comment elle peut alors à ce moment-là l'expliquer. Et ensuite, la personne en face va avoir cette réaction d'un ce que j'ai appelé un scénario qui émerge et qui reprend ce qui est arrivé sous un mode un peu beaucoup visuel souvent, mais avec aussi, ça peut être des sensations beaucoup plus élaborées, etc. C'est ça un scénario émergent. Et c'est... Enfin, l'hypothèse est que ça serait vraiment spécifique du trauma. Alors c'est une transmission, hein, il y a quelque chose qui se transmet. Et l'idée est qu'à partir de ce scénario, si on en prend conscience, ce qu'il est là à porter, voilà, on le fait, mais comme on a des tas de pensées dont on ne tient pas compte sur le moment, mais si on apprend à en tenir compte, c'est-à-dire si on est averti de ce petit phénomène, eh bien, à ce moment-là, ça permet d'appuyer ce que dit la personne pour converser avec elle à propos de ce qui s'est passé, vous voyez, d'une façon plus facile, d'une façon facilitatrice aussi pour la personne, pour le patient. Voilà. Donc, c'est ça le scénario émergent. Et voilà, on a essayé de faire une étude préliminaire sur un certain nombre de ces interviews de thérapeutes et des scénarios émergents. Et il y a des situations, par exemple, qui sont très intéressantes. Il y a nos collègues, le professeur Thierry Bobet, qui fait des groupes, qui reçoit les gens traumatisés en groupe, avec un thérapeute principal et des co-thérapeutes. Et ça peut aider certaines personnes traumatisées à parler plus facilement, selon la culture d'où elles viennent, notamment. Bon. Et on a recueilli comme ça les scénarios émergents de différentes personnes qui ont vu le même patient et qui ont reçu le même récit, en quelque sorte. Et ce qu'elles ont, ces personnes du groupe, comme scénario émergent, est très variable. Et ça permet d'établir après des critères, si vous voulez, sur ces scénarios qui ne sont pas tous les mêmes et d'analyser les critères qui peuvent apparaître.
Ouais. Alors, juste pour notre auditoire, parce que tout le monde n'est peut-être pas un familier de la question traumatique, peut-être qu'on pourrait préciser pour mieux comprendre la portée de ça, c'est que le propre d'une pensée traumatisée, on va dire, c'est d'être très désorganisé, c'est-à-dire de ne pas pouvoir faire ce que, si on va pas trop mal, on fait habituellement, c'est-à-dire faire venir des souvenirs, les refouler, donc avoir des oublis. La pensée traumatisée, soit elle a oublié beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'elle a des pertes de mémoire importantes, ou au contraire, elle a une hypermnésie, voire ce que tu appelles des ecmésies, c'est-à-dire des hallucinations visuelles qui sont propres à l'impact traumatique. Hein. Voilà. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le thérapeute se dote d'un outil, justement, qui est sa propre personne, je dirais, pour... Au moment où, alors dans un contexte, effectivement, enfin, il faut le dire parce que ça paraît un peu magique comme ça, mais de confiance réciproque, où il va pouvoir aborder ce qui a fait effraction, c'est-à-dire ce qui a complètement détruit le mécanisme psychique, si on peut utiliser une image de construction comme ça, reprendre avec le patient ce qui a été véritablement traumatique, et va utiliser justement ce scénario émergent, ce qui donne une position très particulière, c'est-à-dire d'écoute. Bon, mais ça, c'est notre travail du quotidien, l'écoute, et en même temps de réflexivité très intense de soi pour s'appuyer, comme dit Christian, sur ce qu'il perçoit à l'intérieur de soi et le mettre au profit d'un récit, d'une narration qui va finalement sortir le traumatisme d'une espèce d'idée fixe, on pourrait appeler ça une idée fixe, une répétition, c'est-à-dire que les gens se plaignent beaucoup d'avoir toujours les mêmes images, d'avoir les mêmes rêves, de le sortir de là par un récit, on va dire plus intérieur d'ailleurs, une expérience plus intérieure qui va les soulager en fait. Les soulager parce que d'abord il y a ce que tu décris dans ton premier livre, c'est-à-dire ça va être un sentiment de partage avec quelqu'un d'autre, ça les sort de la solitude, une solitude parce que le traumatisme isole en fait. Et après, donc grâce à ce scénario émergent et la narration qu'elle propose, eh bien pouvoir effectivement reconstruire quelque chose qui a été détruit. C'est juste ce que je dis.
Tout à fait, oui, c'est tout à fait ça.
Et alors, le soin avec les enfants, tu pourrais peut-être en dire quelque chose sur la question des dessins d'enfants aussi. Parce que alors, on t'a parlé des adultes, mais toi, tu es quand même pédopsie, donc tu peux peut-être nous dire quelque chose là-dessus.
Une des méthodes pour travailler avec les enfants, c'est de les inviter à dessiner. Et il y a un couple de psychiatres qui s'appelait Brauner, qui ont beaucoup travaillé avec les enfants au moment de la guerre d'Espagne. Les enfants qui étaient dans les camps de réfugiés, hein, les enfants espagnols qui étaient dans les camps de réfugiés français. Ont inventé une petite méthodologie qui est souvent utilisée, qui est de demander à l'enfant de faire, c'est un exemple que je vous donne, hein, mais c'est pas de faire le dessin, comment c'était avant la guerre, comment c'est pendant la guerre et comment ça sera après la guerre. Voilà. Pour permettre d'ouvrir la possibilité pour l'enfant d'utiliser des images qui sont dans une continuité temporelle. Parce que la guerre, c'est un présent. Où les gens perdent la notion d'avenir et même assez rapidement la notion de ce qui est normal de vivre. Ils sont dans quelque chose qui est tout à fait anormal, mais ils sont là-dedans et ils le vivent au présent. Donc cette méthode est intéressante parce qu'elle leur rend en quelque sorte la chronologie. Et donc, ce qui ressort des dessins des enfants pris dans la guerre, dans des conflits, c'est l'extrême réalisme de leurs dessins et qui montre l'attention qu'ils ont par rapport à tous les événements qui se produisent à ce moment-là. C'est pour ça que... Les les enfants sont utilisés comme soldats dans les guerres parce que ils sont les seuls à se faufiler, à faire attention aux mines, aux choses comme ça. Et bon, ils ont des dons guerriers qui n'appartiennent pas au domaine de la force, hein, mais qui sont liés à leur grande attention à ce qui se passe autour d'eux. De façon générale, les enfants sont très attentifs et quand ils dessinent la réalité crue de la guerre. L'image qui est sur le livre, voilà, c'est un enfant qui dessine du camp des amputés, donc qui dessine comment son père a été tué. Bon, y a des enfants qui dessinent les amputations, etc. C'est extrêmement cru comme ça. Et en même temps, ils ajoutent toujours des petits éléments qui traduisent la vie du village. Par exemple, ici, on voit un palmier, un arbre à palme, on voit une voiture. C'est-à-dire que ces dessins crus, ils les font cuire un petit peu, en quelque sorte. Hein. Ils les cuisinent un petit peu. Et tout le travail est, à partir de ces premiers dessins, de faire travailler les enfants pour qu'ils évoluent petit à petit vers des dessins qui soient plus apaisés, voilà. Mais ces dessins sont quelquefois extrêmement impressionnants. Je me souviens d'une famille qui était en Centrafrique au début des événements et ils se sont trouvés prisonniers dans leur propre maison, dans une pièce de leur maison. Et les milices qui attaquaient la capitale ont saccagé la maison, ont pillé tout ce qu'il y avait à piller et savaient qu'ils étaient dans une des pièces de la maison. Donc ils voulaient les faire sortir de là. Et finalement, ils sont sortis, enfin peu importe, la suite a été positive. Mais il y avait deux fillettes et l'une d'elles a dessiné tout ce qui se passait dans la pièce comme si elle était collée au plafond, comme si elle était une mouche accrochée au plafond et qu'elle voit tout ce qui se passait dessous. Ce qui est vraiment, vous voyez, des fois on parle des gens qui ont des impressions de sortir de leur corps, de grimper de quelques mètres et de voir les choses comme ça. Et on dit non, mais c'est dans les films, c'est dans les livres. Non, non, pas du tout. C'est dans la vraie vie. Et cette fillette le montrait d'une façon alors là incontestable, quoi. Le plan était vu de dessus et montrait tout ce qui se passait à ce moment-là. La mère en train de craquer, sa sœur en train de s'occuper des ordinateurs parce qu'ils allaient sortir, il fallait emmener les ordinateurs portables, le père vers la porte, le petit garçon en train de courir dans tous les sens, dans la pièce. Enfin bon, voilà, il y avait tous les éléments, le lit, enfin voilà. Et ça, c'est cette capacité des enfants est positive, quoi. Et il faut l'utiliser de façon positive pour qu'ils puissent raconter. Voilà. Parce que le remède le plus qu'on connaît le mieux actuellement pour soigner les traumas, c'est que les gens les racontent et les racontent encore et puissent les élaborer petit à petit à travers les récits, des métaphores qu'on peut leur proposer, vous voyez, des choses qui... Une histoire qui va raconter quelque chose de semblable, mais qui n'est pas exactement l'histoire qu'il raconte et qui se finit bien. Enfin, vous voyez, bon, tout ce travail de parler autour de ce qui s'est passé, c'est notre principal outil thérapeutique. Il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est le principal. Et avec les enfants, donc, c'est très facile, parce que les enfants se livrent très facilement, et par leurs dessins, mais aussi en racontant quand ils ont le langage, en jouant, etc. Beaucoup de choses ont été élaborées autour de la notion de résilience, hein, qui est dire on peut résister à aux guerres, à tout un tas de choses, etc. Ce qui est vrai pour certains, mais pas vrai pour tout le monde. Par exemple, les gens qui sont passés par l'univers concentrationnaire, eh ben, il y a les naufragés et les rescapés. Hein, je ne sais plus jamais le titre exact du livre de Primo Levi. Oui, c'est ça, les naufragés et les rescapés. Et donc il y a des gens qui ne peuvent pas surmonter et qui meurent ou qui
les naufragés, les rescapés, ouais, 40 ans après Auschwitz.
Et il y a des gens qui restent, les traumas graves restent toute la vie. Ou des petits éléments, si ça n'a pas été un trauma majeur. J'ai une maman qui a 92 ans et elle a connu la guerre, évidemment, et les bombardements. Parce qu'à Clermont, il y a les usines Michelin qui étaient utilisées par les Allemands pour fabriquer les pneus et qui étaient bombardées par les Anglais toutes les nuits. Et donc, dès qu'elle entend un avion, elle est en état d'alerte, actuellement encore. Et je l'ai toujours vue. Quand j'étais gamin, je ne comprenais pas ce qui lui arrivait. Quoi. Il y avait un avion, moi j'aimais bien voir les avions, tout ça. Et pour elle, ça la met en état d'alerte. Quoi. Donc ça reste, vous voyez, toute la vie. Mais les gens qui ont des vrais états traumatiques peuvent être gravement handicapés. Ils font ensuite des sortes de complications qui sont notamment de s'alcooliser massivement, d'utiliser des drogues. Alors là, vous avez, je ne sais pas, vous, Taxi Driver, qui est un film un peu extrême là-dessus, hein, mais voilà, qui montre pour la première fois ce que c'est qu'un vétéran du Vietnam au cinéma. Et bon, le trauma, c'est grave, c'est sérieux. Est-ce que c'est une maladie au sens... je crois que oui, hein, dans la mesure où les gens présentent vraiment des traumas, mais ça ne touche pas tout le monde. C'est-à-dire, on considère que dans la société en paix, où il n'y a pas de guerre, il y a 30%, on va dire, entre 8 et 10% de personnes qui ont connu à un moment donné... un événement qui a été un petit peu traumatique, si vous voulez, dans l'ensemble de leur vie, de nous. Voilà, bon. En situation de guerre, ça peut monter jusqu'à 30%, 40%. Voilà. Donc évidemment, ça augmente ce phénomène, mais qui est un phénomène qui fait partie des phénomènes, on va dire... normal de la vie. Voilà, on peut être traumatisé dans la vie. Le diagnostic de trauma chez l'enfant, on ne le faisait pas il y a 20 ans. Hein. Bon, donc, on n'a pas beaucoup de recul là-dessus. Maintenant, si on fait le diagnostic, qu'on traite l'enfant, un enfant qui est tombé d'un cerisier avec la mère qui se met à hurler en voyant et tout ça, peut faire un traumatisme. Voilà. Un vrai, hein, avec tous les éléments, tous les symptômes, hein, qui vont avec. Si on le traite, ça va passer. Ces fillettes de Centrafrique, là, qui sont rentrées en France, bon, je les ai reçues quelques temps. Bon, elles allaient, il y en a une qui allait mieux, celle qui avait dessiné là, ce dessin vu du plafond. Par contre, la grande sœur allait encore pas bien quand... les parents sont repartis dans un autre pays, donc je ne pouvais pas continuer de les suivre. Mais voilà, quand on suit les enfants, à ce moment-là, il n'y a pas de raison pour que ça dure toute la vie. Ce qui dure beaucoup et qui va évidemment perturber l'ensemble du développement, c'est ce qu'on appelle les traumas relationnels, c'est-à-dire les traumas qui sont produits par les mères qui elles-mêmes sont traumatisées quand elles élèvent leurs enfants. Parce que si elles ont été traumatisées en tant qu'enfants, si elles ont été maltraitées, abusées, etc., bon, à ce moment-là, elles ont tendance à reproduire ce qu'elles ont vécu ou à essayer par tous leurs moyens de ne pas reproduire. Essayer de ne pas le reproduire les amène à des comportements par rapport à l'enfant qui peuvent être perturbateurs. Par exemple, elles auront toujours peur qu'il lui arrive quelque chose, elles vont... je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, ça, c'est un trauma qui est très embêtant.
Le livre permet vraiment de comprendre et que chacun, effectivement, va utiliser avec probablement son propre vécu, les propres images qu'on a, des choses différentes. Quoi. Voilà. Il y a des choses qui sont plus perceptives, d'autres plus imaginatives. Après, dans certains traumas, il y a carrément des perceptions. Ça, je trouve ça impressionnant, d'ailleurs, la morsure d'un chien, par exemple. Voilà. Et ce qui me semble peut-être intéressant, c'est ce que je disais, c'est que déjà, ça sort la personne de sa solitude, me semble-t-il quand même.
Oui,
intéressant de ce partage-là, c'est-à-dire c'est au fond le scénario, le traumatisme qui se transmet, c'est un effet délétère et en même temps, cette capacité de partage peut aider la personne. Et je dirais que alors là, bon, tout un pan du livre qu'on n'a pas pu évoquer, mais tout ce qui se passe à ce moment-là, dans ce face-à-face, ou en tous les cas, ce face-à-face dans le sens de cette relation entre le patient et le thérapeute, c'est tous des phénomènes alors, voilà, cognitifs aussi qui montrent que le patient voit que le thérapeute a compris quelque chose. Ça, c'est,
qu'il est en empathie.
Voilà. Qu'il est en empathie, qu'il a compris, et ça a un effet sur la personne. C'est, voilà, parce que c'est vrai que ça paraît un peu magique, mais dans le livre, tout ça est très décortiqué sur quoi ça repose. Donc les phénomènes d'empathie, c'est-à-dire tout qui n'est pas la sympathie, mais qui est l'empathie, qui repose sur des fonctions cognitives, neurophysiologiques universelles, et qui permettent effectivement que le patient puisse percevoir, et vice-versa, qu'il y a quelque chose qui est perçu, qui est vécu peut-être, je ne sais pas quel terme utiliser, de façon conjointe. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et après, effectivement, que je pourrais vous donner des exemples où effectivement, il y a un récit et le thérapeute, par ce mécanisme, cette mise à disposition de l'écoute et de sa propre psyché, finalement, va réussir à produire un autre scénario qui, parfois, c'est ce que tu disais, est un petit peu différent. Et de scénario en scénario, on désenclave l'espèce de trou que provoque le traumatisme dans la pensée. Voilà. Merci Christian.